Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Bonjour, bienvenue pour une nouvelle édition de Dessus de table. Aujourd'hui, on reçoit un grand chef pour parler de cuisine juive d'Afrique du Nord. Avec nous, Yoni Saada, ex-top chef.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, Yoni, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Pardon, on va vous présenter un petit peu. Parce que nos auditeurs vous connaissent surtout justement pour avoir été parmi les finalistes de Top Chef 2013. Mais votre carrière, elle a commencé bien un bon, parce que vous avez d'abord appris la cuisine, mais aussi la boulangerie à l'école Ferrandi. Alors la boulangerie, pour vous qui êtes d'origine tunisienne, le pain c'est sacré dans l'alimentation de tous les jours.
Le pain est sacré, je pense, en général, sur toute notre planète, mais bien sûr, sur le bassin méditerranéen, c'est très très important. Faut pas oublier qu'à la base, le pain faisait office d'assiette un peu partout dans le monde. En fait, on servait sur une tranche de pain le tagine ou bien même un civet ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que le pain a une importance fondamentale dans notre savoir-vivre de quotidien, en fait.
Ouais, même plus vers l'Orient, au Liban,
vers l'Orient,
en Inde, le pain c'est l'assiette.
Le pain c'est l'assiette, exactement. On le retrouve aussi en Amérique du Sud, on connaît tous les tacos, ce genre de choses. Donc c'est vrai que le pain a quelque chose de très important. Et le pain est vivant et le pain est un tout, en fait.
Et ouais, le pain qui occupe une place de choix en Afrique du Nord, au Maghreb, et puis aussi, enfin, on peut dire tout le pourtour méditerranéen. Ensuite, vous avez travaillé dans les brigades de quelques très grands chefs, ou trois étoiles, comme Yannick Aleno au Meurice, William Ledeuil au Bouquiniste.
Tout à fait.
Et surtout Frédéric Anton au Pré-Catelan, parce que vous le considérez comme votre mentor.
Tout à fait.
Alors pour vous, est-ce que la haute gastronomie dans des restaurants étoilés, c'est un passage nécessaire pour pouvoir commencer à prétendre inventer sa propre cuisine?
Je ne sais pas si c'est un passage nécessaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un passage de passion. Soit on aime vraiment la haute gastronomie, parce que je trouve qu'il n'y a pas de basse gastronomie ou de haute gastronomie, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit, en fait. C'est la manière de servir, c'est le temps qu'on passe sur une assiette, le nombre de gens qui passent du temps sur chaque assiette. C'est surtout ça, la haute gastronomie. Après, la gastronomie, elle a une seule voie à la base, c'est qu'elle doit être bonne.
Oui,
voilà, son horizon, elle doit être bonne. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai toujours aimé les grandes maisons. J'ai toujours aimé ces maisons. On dit qu'elles sont souvent luxueuses, mais c'est vrai que c'est aussi une manière de voyager en étant juste dans un restaurant.
D'accord,
c'est ce qui m'a toujours plu.
D'ailleurs, les bons produits, hélas, c'est devenu un peu un luxe aussi, parce que vous êtes très attaché au sourcing, à la qualité des produits.
Justement, ça vient du gastro, tout ça, et c'est vrai que à la maison, on a toujours eu ce truc-là de choisir toujours les meilleurs produits, parce que je suis fils et petit-fils de commerçant, et même si on fait une cuisine simple, on a toujours eu cet amour du beau produit, et je pense que le beau produit doit refaire partie intégrante de notre vie de tous les jours. C'est très important, parce que souvent on a l'impression qu'un produit moins cher est vraiment moins cher, alors que pas du tout. Un poulet moins cher qui est un poulet de batterie va énormément diminuer à la cuisson,
plein
d'eau, et tout de suite, en fait, au bout du compte, quand on l'a cuisiné, à la fin il en reste beaucoup moins, alors que un autre est peut-être un peu plus cher, mais en tout cas on a quelque chose d'intéressant à la fin, à la cuisson.
D'accord. Donc là, en fait, vos passages dans des grandes brigades, c'est un outil, mais en fait pour vous la base d'inventer votre propre cuisine, c'est d'abord le produit.
Tout d'abord, c'est le produit. Je pense que pour tous les bons cuisiniers du monde, c'est le produit, vraiment. C'est ce qu'on cherche toujours. On est toujours à l'affût de ce produit. Comme on dirait un tapissier décorateur va chercher le bois pour son siège, quel tissu, quelle mousse il va mettre, c'est pareil, sauf que on prépare à manger, donc on va aller choisir nos carottes, nos tomates, et surtout c'est de l'important, c'est vraiment la saison, c'est de reprendre ce suivi des saisons que nos grands-parents avaient de manière innée. Et en fait, maintenant, on a un peu oublié tout ça, mais faut aussi avoir le désir de l'attendre du produit, d'attendre une fraise, d'attendre un coin, d'attendre une tomate, d'attendre tous ces produits-là qui font que ils ont plus le même goût quand on l'a en bonne saison.
Alors, inventer sa propre cuisine, justement, c'est ce que vous avez commencé à faire à seulement 25 ans, en 2000. que je dise pas de bêtises. Faut pas me vieillir quand même. J'ai perdu la date. Vous l'avez fait à seulement 25 ans dans votre premier restaurant qui s'appelait Osmose.
Voilà, c'est ça.
Alors quand on parle d'une feuille vierge, comment est-ce qu'on fait pour construire un plat ou une recette? C'est une évidence ou bien il faut penser, repenser un plat, le faire, le refaire, jusqu'à arriver à ce que vous voulez?
Moi, depuis que j'ai commencé à m'installer seul, il y a maintenant presque 15 ans, il y a 12 ans, j'ai toujours eu cette envie de créer des choses, de transformer les choses et de donner du plaisir aux gens. Et c'est cette envie qui me transporte depuis 15 ans et c'est pour ça que je suis installé. C'est avant tout parce que j'aime voir les gens heureux dans mes restaurants, j'aime les voir s'installer, j'aime leur raconter toute une histoire. Et qu'on fasse un sandwich ou de la haute gastronomie, pour moi c'est exactement la même chose. Qu'on fasse une salade ou qu'on fasse même un plat très simple, très brut, le principe c'est un peu comme de l'accueillir à la maison. Je suis un pur méditerranéen, donc j'ai ça dans le sang. J'aime les gens profondément, j'aime l'humain. J'aime ce rapprochement à la table, j'aime tout ce que ça engage en fait.
Comme je dis souvent, la cuisine c'est le partage.
Exactement, on a parlé beaucoup avant de commencer cette émission, c'est un partage, c'est une manière aussi de dire en fait, il y a plus rien qui compte, juste le plaisir d'être à table ensemble et de se raconter des histoires et de faire vivre quelque chose, des histoires, toutes ces choses-là qui font que la table est vraiment magique.
Alors d'accord, justement. Alors en 2013, vous avez ouvert Miniature.
Ouais.
Ça c'était juste après Top Chef, on va dire.
Exactement.
Et Miniature, vous le présentiez comme un restaurant de tapas gastronomique. Mais moi, quand on me parle de tapas, moi je pense tout de suite à la Kemia. Alors, ouais. Est-ce que c'est un hommage à vos racines justement d'avoir choisi ce type de cuisine?
Complètement.
Pour Miniature.
Je suis très fier de mes racines. Elles sont vraiment. Elles sont fortes, mais en même temps, il y a tellement de mélange par tout ce qui s'est passé que mon grand-père a été accueilli par une famille d'Europe de l'Est. Donc, on a aussi des petites touches comme ça culinaires dans la famille d'Europe de l'Est. Ça va être les concombres en pickles, en aigre doux. Ça va être un pastrami, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à table, on est très méditerranéen et on aime les grandes tablées, on aime les tablées de famille. Et c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à mes enfants parce que je trouve ça vraiment important, la famille et se retrouver à table autour de choses très simples et de choses vraies. On n'est plus sur nos téléphones, on n'est plus sur nos ordinateurs, sur tous les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passe en ce moment. On passe juste un moment vrai de vérité parce qu'on aime les gens avec qui on est et qu'on a envie de partager tout ça.
D'accord. Alors, on parlait de Kemia et je pense que vous me contredirez pas. Quand il y a une Kemia sur un coin de la table, il y a toujours un peu d'harissa qui traîne.
La fameuse harissa. C'est tout un truc chez moi. Attention, moi, je.
On va en parler.
C'est de la goulette.
On va en parler dans un instant. Surtout la goulette. J'aime bien la goulette. C'est un peu le paradis de la cuisine juive tunisienne justement. La goulette. Donc, on va en parler dans un instant. Mais alors, vous ne le saviez peut-être pas, Yoni, mais il y a le gouvernement tunisien, qui à travers le JICA, qui est le groupement industriel de la conserve tunisienne, qui a lancé une espèce d'AOC, un label de qualité sur les harissas. Donc aujourd'hui, il y a 6 harissas qui sont répertoriées. J'ai eu l'occasion de les goûter. Elles sont très différentes, mais elles sont toutes très bonnes. Et donc, à la Maison de la Tunisie à Paris, il y a eu récemment le lancement de ce label en France. Et donc, on va écouter l'interview de Badi Klibi qui est toujours d'ailleurs le directeur général du JICA. Il nous en dit un petit peu plus.
Klibi, bonjour. Vous êtes directeur général du JICA. C'est quoi exactement?
C'est le groupement des industries de conserve alimentaire, tutelle du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises en Tunisie.
Aujourd'hui, c'est vous qui vous recevez à la Maison de Tunisie à Paris. En fait, l'harissa, c'est-à-dire que vous avez lancé donc avec le JICA un label, un peu comme une AOC ou une AOP en France, on dirait, qui est un label de qualité pour l'harissa, qui s'appelle Tunisian Harissa. Et quelle est la volonté du JICA et du gouvernement tunisien dans cette démarche?
En Tunisie, on a vu que pour pénétrer au marché européen, marché des États-Unis et tout le marché mondial, il faut être labellisé ou bien, c'est-à-dire avoir des certificats pour bien s'introduire à ces marchés-là. Aujourd'hui, avec le Food Quality Label, c'est le JICA est le gestionnaire de ce label. Donc, c'est un label qui a été mis par le ministère de l'Industrie en 2014 pour produire de l'harissa à une qualité supérieure, c'est-à-dire pour mieux la vendre ici à Paris.
D'accord, oui, donc un petit peu comme je le disais tout à l'heure,
les labels
comme
rouges.
Une AOP, comme une AOC ou un label rouge.
Exactement.
C'est-à-dire
c'est
avoir
ça.
Un cahier des charges précis.
Exactement.
En termes de composition, en termes de fabrication,
c'est
en
pas
termes
en composition,
de qualité. C'est-à-dire que oui, les compositions sont libres.
Oui.
Enfin,
non. C'est un cahier de charges exactement très strict. Donc l'harissa tunisienne, donc c'est un cahier de charge qui démarre avec les agriculteurs jusqu'à les industriels. Comme ça, donc, il y a les ingrédients, c'est 4 ingrédients à peu près, essentiellement du piment. Mais la date de cueillette du piment et tout ça, c'est bien étudié et bien. C'est strict et bien défini dans les cahiers de charges.
Alors, il y a au Cap Bon, en Tunisie, c'est un endroit où on fabrique beaucoup d'harissa. Est-ce qu'il y a un impératif géographique aussi pour avoir ce label ?
On est en train de. Bon, pour. On est ici, on représente 6 entreprises labellisées. Et puis, il y a 5 entreprises qui se situent au Cap Bon. Donc, aujourd'hui. C'est ce que vous venez de dire. On travaille sur un AOC et l'harissa du Cap Bon. On est en train d'enregistrer cette marque au patrimoine mondial pour voir l'harissa du Cap Bon. C'est un AOC IG.
Alors Yoni Sayada, on parlait de votre restaurant miniature, mais aujourd'hui votre actualité c'est Bagnard. Alors Bagnard, vous en êtes à votre deuxième ouverture de restaurant Bagnard.
Exactement.
Et même si vous parlez de pain Bagnard plus que de sandwich fricassé, on est quand même en plein dans vos racines là avec Bagnard.
Ah complètement. Bah, Bagnard c'est vraiment en fait c'est un concentré de mes racines. Et je voulais vraiment, moi je suis un amoureux de la Méditerranée. C'est comme ma mère un petit peu. C'est pas un jeu de mots mais.
Ouais.
Et en fait, j'aime cet ADN dans la Méditerranée qu'on retrouve partout, qu'on va retrouver en Espagne, en Italie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Grèce, enfin tous ces pays. Il y a quand même quelque chose qui nous unit tous, c'est la table, c'est le plaisir de manger et c'est le plaisir d'avoir des beaux produits. Et l'harissa, bah en fait, c'est un peu la personnalité même de la Tunisie en fait.
Donc c'est peut-être même le ciment de la cuisine tunisienne.
Ah, complètement.
Presque, hein.
Et en fait, ce que j'aime, c'est ces recettes ancestrales où on connaît pas vraiment la recette. Chacun a sa main, chacun a son dosage d'épices, d'ail, quel ail on choisit, comment on a fait sécher ces piments, est-ce qu'on laisse un peu plus de grain ou pas assez, toutes ces choses-là. Moi, ma grand-mère, elle m'a toujours fait
l'harissa. Justement, il y a un hommage à votre grand-mère.
Bien sûr. Ouais.
Dans le menu de Bagnard dont on était en train de parler, donc il y a l'harissa de Mamie. Alors rappelez-moi son prénom.
De Mamie Nelly.
Mamie Nelly.
C'est ma grand-mère.
Mamie Nelly qui était apparemment la top chef de l'harissa.
Ah, hein. Qui l'est toujours. Voilà, elle c'est elle qui m'a appris à faire l'harissa. On a chacun sa touche, chacun son truc. C'est vrai, j'aime beaucoup la faire. Ça dépend aussi de la qualité des piments qu'on a. Sinon, on travaille avec une harissa qui est juste à côté de la Goulette et qui est pas trop paillée, pas un petit peu plus épicée au niveau du cumin. Tout ça, c'est des petites retouches. Mais en même temps, voilà, ça fait partie vraiment du patrimoine culinaire tunisien. Et je trouve ça très bien d'avoir fait ce genre de concours et de classement AOC pour la Tunisie et pour ce que la cuisine représente en Tunisie. Parce que c'est vraiment quelque chose de très fort en Tunisie.
Oui, alors vous, en deux mots, juste avant la pause, les ingrédients pour votre harissa, sans trahir de secret. Hein,
sans trahir, il n'y a pas de secret. Je prends des piments secs, je vais au marché de Belleville les acheter. Je les réimbibe dans de l'eau légèrement tiède. Je retire la moitié des grains et je le broie au pilon avec de l'ail, du jus de citron, du cumin et un petit peu de piment doux, tout
d'accord.
Simplement.
Donc peu d'ingrédients pour une excellente harissa puisque j'ai eu l'occasion de la goûter. On se retrouve après la pause.
Ça marche.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurrefm.
Alors de retour dans Dessus de Table, aujourd'hui on vous parle de cuisine juive d'Afrique du Nord et principalement de cuisine juive tunisienne, puisqu'avec nous est présent Yoni Saada du restaurant Bagnard et ancien finaliste de Top Chef. Alors, avant la pause, vous nous disiez, Yoni, que vous étiez fils de commerçant et que ça vous avait appris un certain nombre de choses et de valeurs au niveau de la qualité des produits. Et pas de n'importe quel commerçant, parce que vous êtes le fruit de plusieurs générations de bouchers fort bien connus dans le Marais, la boucherie Saada qui est rue des Rosiers. Et je crois même que c'est plus la plus ancienne boucherie cachère du Marais.
Mais
moi qui suis du quartier. Hein,
c'est la boucherie du bonheur, parce que Saada, ça veut dire bonheur. Donc c'est vrai que c'est un peu ça. C'est depuis que je suis né, on m'a inculqué que bien manger, c'était très important, et que vraiment c'est le ciment de la famille, quoi. C'est, on se retrouve à table et puis c'est des moments extraordinaires. Et je pense que c'est un peu comme ça dans tout le bassin de la Méditerranée. Enfin, tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils sont tous un peu pareils. On aime se retrouver en famille et on aime partager des bons moments et parler. On parle même de ce qu'on va manger après, alors qu'on est déjà en train de manger.
Oui, on pense au prochain.
Et puis on parle aussi de souvenirs d'une kaela qui a 10 ans, mais celle-là c'était la meilleure. On sait pas pourquoi c'était la meilleure, mais c'est ce qui fait.
On l'a jamais aussi bien réussi depuis.
Voilà, c'est ça. Mais ce qui fait la beauté de la cuisine, et c'est ce qui fait qu'on passe des moments extraordinaires en famille.
Alors justement, donc on parlait de vos parents. On sait que être commerçant et ô combien être boucher, c'était un métier difficile. Est-ce que vos parents, ils étaient enchantés de vous voir vous diriger dans la cuisine, qui est aussi un métier très dur, ou est-ce qu'au contraire ils espéraient, est-ce qu'ils espéraient que vous choisissiez un métier beaucoup moins difficile que le leur? Je vais pas rentrer dans le cliché, on voulait qu'il soit chirurgien,
fils.
C'est
un petit peu ça.
C'était un peu ça quand même.
Il y a pas de faux, mais c'est vrai que moi je voulais pas ça, et je voulais faire quelque chose avec mes mains. Et quand j'ai dit que je voulais faire de la cuisine à mes parents, ils ont tout de suite compris, et puis ils ont eu l'intelligence de tout de suite dire qu'il vaut mieux se lever tous les matins en faisant ce qu'on aime.
C'est clair,
et je pense que c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est que le matin je me lève, c'est vraiment ce que j'aime, et je m'éclate chaque jour, et je suis content de tous vous recevoir chaque jour et de vous donner du plaisir. C'est ce qui me donne du baume au cœur, en fait, et ça a pas de prix dans la vie. J'ai toujours dit que si un jour je prends plus plaisir, j'arrêterai le métier, parce que en fait le métier, c'est ça. C'est pas juste être un bon cuisinier, pas juste être un bon gestionnaire ou faire des décos sympas, c'est prendre du plaisir à vous en donner.
Très bien. Alors justement, avec mon collègue et co-animateur Philippe Robuchon, qui n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui, on est allé déjeuner un dimanche chez Bagnard. Alors vous n'étiez pas là parce que vous étiez en Italie.
Exactement.
Mais on a quand même investigué un petit peu, et on a goûté des fameuses merguez qui viennent
de chez mon père, ouais.
De chez votre père.
Tout à fait.
Alors qui étaient absolument délicieuses, hein, je vous le dis.
C'est de la vraie viande, c'est des bons épices qui sont bien choisis depuis beaucoup d'années. Puis c'est une recette qui est depuis mon grand-père, donc c'est fait dans les règles de l'art avec la bonne viande, et c'est toujours pareil, hein, c'est le produit, on en parlait tout à l'heure, et c'est que ça, et derrière c'est une cuisson qui est quand même assez lente, on les saisit mais pas trop fort non plus, on veut pas ce qu'on appelle en cuisine les ferrer, c'est-à-dire leur donner un goût un peu ferreux parce que ça noircit. On va les colorer tout doucement et on les fait quand même assez bien cuire.
Oui, elles avaient l'air plus confites, hein, que grillées.
Ouais,
hein.
Complètement. Et puis ce jus qui reste, en fait, ce gras qui reste, on aime bien le retravailler soit dans les pâtes ou soit ce genre de choses, parce que ça a un goût extraordinaire, en fait, ce gras.
On s'en sert pour délayer la rissa.
Délayer, alors là, c'est super. Ou délayer la tchatchouka.
Oui, d'accord, carrément. on peut la faire au merguez, d'ailleurs. Hein.
Ah ouais, bien sûr, là, on la fait au merguez très souvent. D'ailleurs, il y a des gens qui nous demandent, et voilà, c'est un peu des aficionados, c'est des gens qui, en fait, c'est pareil, c'est leur ADN, donc ils sont contents de retrouver toutes ces choses-là. Puis on va traverser vraiment tout le bassin de la Méditerranée, on va chercher le plus beau produit de chaque pays, ou les plus beaux produits de chaque pays.
Alors justement, ces merguez, ouais, de la maison Saada, donc la boucherie de vos parents,
ouais,
elles étaient extrêmement moelleuses. Pourtant, la viande cachère, du fait de la cachérisation,
ouais,
elle doit être exsangue, on la lave, ouais, on la sèche, enfin on la sèche, on la déshumidifie, on va dire, on enlève le maximum de sang. Du coup, elle a la réputation toujours d'être un petit peu
plus sèche,
un
ouais,
petit peu sèche.
Ouais,
c'est
ouais,
pour ça qu'on la fait d'ailleurs beaucoup en bouillotée,
hein,
ouais, ouais, ou trop salée si on l'a pas assez bien rincée après. Comment fait-on justement pour des merguez, par exemple?
C'est le seul secret, de toute façon, c'est comme pour la viande. Hein. La viande, si on veut pas qu'elle soit sèche, il faut qu'il y ait un peu de gras.
Ouais.
Et en fait, maintenant, on rebute le gras, c'est-à-dire on dit ah non, surtout pas de gras, c'est mauvais pour la santé. Faut pas le prendre comme ça, en fait. Faut le prendre comme c'est un capteur de goût, le gras. Et il faut savoir en garder un petit peu. Il vaut mieux acheter une belle viande qui a un bon gras que d'acheter une viande très moyenne qui a pas de gras. C'est beaucoup plus mauvais pour la santé.
Oui, et puis le gras, on n'est pas obligé de le manger, mais c'est lui qui va conduire le goût dans le morceau de viande.
Et justement, ce gras qu'on récupère des merguez, parce que on met aussi du bon gras quand on va hacher notre viande, et ben ce bon gras, on le retrouve après dans notre poêle, et à nous de l'utiliser soit pour faire tomber des petits légumes, par exemple si on veut faire des haricots verts ou du chou, ce genre de choses. En ce moment, on est dans le chou. Eh ben, on peut utiliser ce gras des merguez pour faire rôtir nos légumes, ce qui va nous éviter d'utiliser une autre matière grasse, une autre huile en fait.
Alors moi je suis très curieux, Yoni Saada, alors toujours sans trahir de secret de famille, la merguez de la maison Saada, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle viande, est-ce que c'est un mélange de viande,
non,
ou est-ce que c'est uniquement
que
de l'agneau,
que
du bœuf, 100%
bœuf. 100%
bœuf. Justement, comme ils étaient pas sèches, je me demandais si c'était pas
non,
de l'agneau.
Non. Autant dans la famille on met un peu d'agneau dans nos boulettes parce que ça va amener ce côté très tendre et ça va amener un petit goût aussi un petit peu corsé que j'aime bien dans la boulette. Sur la merguez de bœuf, non, c'est vraiment c'est de la viande qui est hachée avec du bon gras, très peu, en général c'est 10% pour 90% de viande, c'est des bons boyaux et un bon mélange d'épices, ça pour le coup c'est le secret de la famille et je l'ai toujours pas.
Ah,
c'est mon père qui le garde,
pour
l'instant
c'est dans le coffre.
C'est dans le coffre, ça se passe au bon moment quoi. Et derrière voilà, et puis surtout je pense que c'est l'amour quoi. C'est de goûter sa viande, c'est de capter si ça manque d'ail, si ça manque de poivre, de piment doux, ce genre de choses. Après tout le mélange d'épices, j'avoue, je le connais pas encore. C'est un secret de famille.
Et peut-être que papa se dit aussi que si vous donne la recette de ces merguez, peut-être qu'il vous verra beaucoup moins souvent à la boucherie.
Surtout que je pense qu'il se dit que le jour où il prendra sa retraite, il fera passer à qui de droit. Je pense que ce sera à moi, évidemment, la recette pour qu'on puisse continuer de la faire.
D'ailleurs, on peut imaginer que votre père vous propose de reprendre la boucherie et que vous acceptiez, ou vous voulez rester vraiment dans la cuisine?
Pour l'instant, je reste dans la cuisine. Boucher, c'est vraiment être boucher, c'est un métier.
Un métier à part.
C'est un métier tous les jours aussi. C'est pas. On a plus de mal à déléguer qu'en cuisine, je trouve. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle boucherie qui a une belle âme et qui a connu beaucoup de temps différents. Donc, c'est vraiment une histoire de famille, quoi.
D'accord. Alors, si vous voulez goûter ces délicieuses merguez, donc à base de bœuf, on n'en saura pas plus au niveau du secret. Vous pouvez les acheter.
Je vais demander à mon père s'il
est où. Voilà, absolument. Vous pouvez les acheter où? À la boucherie Saada.
Voilà, donc, 17 rue des Rosiers.
17 rue des Rosiers.
Dans le Marais.
Et puis, vous négocierez avec papa Saada le secret de fabrication.
Le secret de famille, exactement.
Voilà. Ou sinon, vous allez les manger parce qu'elles étaient admirablement cuites, hein, puisque il n'y a pas que la composition qui est importante. Il y a la façon de les cuire aussi. Vous pouvez aller les manger chez Bagnard. Donc, Bagnard, vous avez deux adresses, rappelez-les-nous.
C'est 7 rue Saint-Augustin, à côté de la Bourse,
dans
à Paris.
Huitième, oui.
Dans le deuxième.
Dans le deuxième, oui, c'est pas de l'autre
et
côté.
Et l'autre, c'est dans le troisième arrondissement de Paris, dans le Haut-Marais, rue de Saint-Onge, au 58 rue de Saint-Onge.
Voilà,
là
où il y avait précédemment Table Ronde.
Exactement.
Hein, qui était une espèce de pop-up restaurant.
Tout à fait, une table de chef où j'ai beaucoup cuisiné. Et puis, quand il m'a appelé pour me dire qu'il voulait les aider, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire continuer perdurer cette histoire de chef à l'intérieur.
Alors justement, Bagnard, moi j'aurais tendance à dire que c'est la transposition en restauration assise de la street food provençale et tunisienne, on va dire.
Ouais.
Enfin, on peut dire même méditerranéenne,
parce que
vous allez un peu au-delà même.
Là, j'étais en Italie, on a vraiment cet esprit-là aussi. On appelle ça la table chaude, la tavola calda. Et en fait, on le retrouve en Tunisie, on le retrouve au Maroc, on le retrouve au Liban, on le retrouve en Turquie, on le retrouve en Grèce, on le retrouve en Espagne. Et c'est vrai que, enfin, dans tous ces pays, en tout cas de la Méditerranée. Et en fait, c'est notre ADN.
Il y a un ADN commun à toute la Méditerranée.
Ah, complètement, complètement. Et d'ailleurs, j'en fais un livre pour l'automne prochain. On fait un livre sur la Méditerranée où on expliquera un peu tout cet esprit de la Méditerranée avec des produits, avec mes recettes, mais aussi les recettes des autres. Parce que j'aurais jamais l'orgueil de dire que je fais mieux les bambolini qu'à Sidi Bou Saïd, et que c'est là-bas qu'il faut aller les manger, que le lamné que je connais au Liban, j'aurais jamais une aussi belle recette qu'eux. Donc c'est aussi des petits clins d'œil à tous nos fournisseurs, tous ces hommes qui travaillent dur et qui font que nous, on peut faire une belle cuisine.
D'accord. Alors, justement, on parlait de cet alien méditerranéen qui profite à toute la street food méditerranéenne. Mais vous, quand vous étiez ado, en termes de street food, vous étiez plutôt fricassé à Belleville, pita falafel rue des Rosiers ou McDo sur les Champs?
J'ai jamais été très McDo, je l'avoue, et c'est pas mon côté chef qui dit ça ou quoi, mais je m'en fais un de temps en temps comme tout le monde, mais enfin peut-être moins souvent que tout le monde, on va dire, mais ça m'arrive quand je suis sur l'autoroute. Mais c'est vrai que j'ai ce truc-là du fricassé, j'ai ce truc-là du beignet mangé sur le coude, j'ai ce truc-là du falafel parce que je suis né rue des Rosiers, j'ai grandi rue des Rosiers, mais j'ai aussi aussi ce truc-là du sandwich pastrami qu'on mange comme ça sur le coude, quoi.
D'accord. Alors, on parlait justement du sandwich fricassé. Vous allez voir que même certains grands chefs comme Jean-Pierre Cassagne, président des Taupes Blanches, aiment ça et en ont très souvent mangé. On l'écoute de suite. C'était également au lancement du label Harissa Tunisienne et j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Jean-Pierre Cassagne, vous êtes président des Taupes Blanches, chef de cuisine également. Aujourd'hui, vous êtes venu à la Maison de Tunisie pour fêter l'Harissa.
Il y a 4-5 ans, Abderrazak, chef tunisien, a demandé à créer une section Taupes Blanches internationale en Tunisie. Après quelques échanges, je lui ai dit « Ok, je te donne l'autorisation de monter ça ». Et il a monté une très belle école, une très belle association. Et depuis, nous n'avons que des échanges à la fois culturels. Nous allons régulièrement pour des concours en Tunisie. Comme eux viennent en France, comme là, l'Harissa, qui est une journée, il nous a appelé, il nous a dit « Est-ce que ça, on fait ça ensemble ?» Et nous étions donc 12 chef aujourd'hui pour cette opération magnifique.
Bon, l'Harissa, c'est un étendard gourmand de la Tunisie, mais on pourrait dire que c'est presque rentré dans le patrimoine gastronomique français.
Il y a une quinzaine d'années, j'ai créé un tartare de saumon qui avait cette particularité, c'est que je mettais de l'Harissa dedans. Donc saumon frais, des herbes, des épices et de l'Harissa. Et Patrick Poivre d'Arvor, grand journaliste de l'époque, qui adorait ça. Et quand je suis arrivé à la closerie des Lillets il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu mettre le tartare en mettant que c'était le tartare PPDA. Chez moi, j'ai toujours de l'Harissa. Le soir, à l'apéritif, un morceau de pain avec de l'Harissa et une bonne huile d'olive, c'est génial.
Justement, alors le conseil du chef, si on a une Harissa en boîte qu'on veut un petit peu assouplir et customiser, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu d'ail, comment on fait?
Pas l'idéal, effectivement. La délayer avec n'importe quel produit, en petite quantité. Rajouter de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive adoucit énormément. C'est vraiment un truc extraordinaire pour lever, pour améliorer ou pour sublimer un plat. Mais moi, je fais ça avec un dos de bar, par exemple. De l'huile d'olive et de la harissa détendue et de la coriandre, parce que sans coriandre, moi, je vis pas. C'est que du bonheur, quoi.
Vous parliez justement de la closerie des Lilas, où on mange un très bon tartare côté brasserie. Il y a déjà des clients qui vous ont demandé de la harissa à la place du tabasco pour le tartare?
Non, mais les dames me demandaient d'avoir du piment plutôt que le tabasco. Prenez, oui, n'importe quelle harissa détendue légèrement pour un tartare. Moi, je fais une mayonnaise avec de la harissa, je me régale. Quand je fais des crevettes comme ça pour les enfants, je rajoute toujours de la harissa. J'ai goûté une conserve très très bonne tout à l'heure.
Là, justement, on fête la harissa avec le label tunisien Harissa qui se veut être une forme d'AOC. Est-ce qu'on peut imaginer, à votre avis, bientôt d'autres produits tunisiens avec de tels labels?
Écoutez, la Tunisie a quand même quelques recettes, quelques plats emblématiques. Elle a notamment le pain bagna. C'était aller à Belleville, dimanche à 18h, chercher 6-7 pain bagna, parce que c'était une pure merveille, quoi. Donc ça, c'est quand même aussi bien qu'un sandwich. La pâtisserie, on s'aperçoit qu'on a fait aujourd'hui des petites bouchées au chocolat, des petites truffes au chocolat, avec de la harissa. Et moi, au début, je me suis dit, non, c'est très très bon. On a fait des trucs qui étaient assez fins. Le tout dans ces mariages-là, c'est que ça reste subtil. J'ai vu tout à l'heure, j'aurais jamais fait. J'adore les moules. Bon, je vais faire pour mes enfants la prochaine fois des moules avec de l'harissa. Parce que là, j'ai goûté ça. Moules harissa, c'est génial. Vraiment génial. Moi, je me suis régalé. Rien de plus simple. Une poêle, les moules dedans, des oignons, du persil, une cuillère d'harissa. On met les moules, on laisse un peu s'ouvrir. C'est vraiment bon.
Bon, alors, je voyais Yoni Saada opiner. Apparemment, il valide cette recette de moules à l'harissa de Jean-Pierre Cassagne.
Oui. Alors, si on les fait au barbecue, c'est encore mieux. C'est grandiose.
Alors, on se retrouve juste après la pause pour continuer à parler de la cuisine juive d'Afrique du Nord et puis un petit peu d'harissa encore en troisième partie d'émission.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurFM. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur BeurFM.
Manuel Mariani avec vous, de retour dans Dessus de Table, et avec également Yoni Saada, donc ex-finaliste Top Chef et restaurateur deux fois à Paris avec deux bagnards. Alors on parlait juste avant la pause, on parlait donc de la boucherie de vos parents, de la cuisine tunisienne, de l'harissa aussi. Ouais. Hein, alors Jean-Pierre Cassagne qui nous a donné une recette de moule à l'harissa, qui était une recette donc qui avait été faite par un des chefs des toques blanches tunisiennes, donc à la maison de Tunisie, que j'ai pu goûter, qui était effectivement délicieuse. Alors est-ce que dans la cuisine juive tunisienne on met de l'harissa un peu à toutes les sauces? Est-ce que c'est comme est-ce que c'est un condiment récurrent comme le sel dans la cuisine française, Yoni?
Complètement, je suis complètement d'accord. Et puis, très important d'ailleurs, on parle de sel dans l'harissa. Le sel qu'on utilise dans l'harissa est très important. Il va donner une saveur assez spéciale à l'harissa. Mais l'harissa, j'en ai déjà fait même des sorbets. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui... c'est un peu un liant. C'est la moutarde de certains, le réfort d'autres. Donc l'harissa, c'est vraiment quelque chose qui nous unit tous et qui est le condiment incontournable en Tunisie. Ça, c'est une évidence.
D'accord. Alors, cet harissa, ingrédient un petit peu universel, enfin même, on parle de Tunisie, mais enfin bon, l'harissa, même si on l'appelle pas harissa dans toutes les régions, l'harissa dans toute l'Afrique du Nord, on la retrouve. Hein, et puis c'est le compagnon obligatoire du couscous pour ceux qui aiment manger.
Complètement. Il y a l'harissa berbère aussi qui commence à ressortir un petit peu. Parce qu'on l'avait oublié pendant un moment, l'harissa berbère, c'est une harissa avec des piments qui sont fermentés.
Voilà, qui est moins pimenté un petit peu et qui est beaucoup plus parfumé.
Un peu aigre, comme ça, un peu comme un citron au sel, le fameux citron Baldi. D'ailleurs, on en met en général dans l'harissa berbère. Donc c'est vrai qu'il y a un panel d'harissa qui est de plus en plus large. Et après, il y a l'harissa, la vraie, celle qu'on connaît, l'harissa tunisienne. Et on parlait du Cabon tout à l'heure, très important, parce que effectivement, ils ont un sol, ils ont une température, un soleil, un vent, tout ce qu'il faut pour avoir les bons piments. Et
c'est ce le qui paradis fait que des piments.
Le paradis des piments, un piment qui est déjà sucré, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de resucrer notre harissa quand on l'a fait.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui mettent, on en parlait à la pause, qui mettent de la carotte dans l'harissa. Alors pour justement pallier au fait que
pour amener du sucre déjà,
parce que les piments sont peut-être de moins bonne provenance que les piments du Cabon ou autres. Et puis pour donner du poids aussi, parce que la carotte c'est pas cher.
La carotte c'est pas cher et ça pèse. Donc c'est vrai que on amène ce truc-là. Moi je suis pas pour. Pour moi une harissa c'est vraiment la recette que j'ai donnée tout à l'heure. On a oublié le sel tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le dire, mais c'est très important. C'est ce qui fait aussi qu'elle se conserve bien. Et comme vous, ben moi aussi je mets un peu d'huile d'olive. Parce que c'est mon côté gourmand et parce que j'aime bien avoir ce pain italien là qu'on trempe dans l'harissa et l'huile d'olive. Et alors ça c'est magique.
Ah c'est délicieux, oui. Une petite tartine d'ailleurs dans cette dernière partie. Mahmoud Msedi qui est boulanger d'origine tunisienne, qui était dans le Marais aussi d'ailleurs avant de partir dans le 14e. C'était mon boulanger hein, au bout de ma rue. Je ne savais pas qu'il était devenu champion de la meilleure baguette de la meilleure baguette tradition et je l'ai retrouvé par hasard à la radio.
On a quand même un savoir-faire sur le pain. Enfin, on le vit le pain et le pain c'est une matière qui est très très vivante qui va dépendre du temps qu'il fait, de l'humidité qu'il fait, dans quel fournil on est, quelle farine on a,
le levain aussi,
quelle levure. Toutes ces choses-là, ça fait quelque chose qui est très vivant. Et c'est vrai que nous, en tant que gens d'origine ou d'Afrique du Nord, on a ce savoir-faire sur le pain. Et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre la boulangerie, parce que je voulais comprendre le pain et je voulais le vivre de manière réelle.
Alors, chez Bagnard, vous faites le pain maison, vous l'achetez chez un boulanger.
C'est ma recette, mais
vous le faites faire par un boulanger. Parce que c'est compliqué de faire de la boulangerie quand on n'a pas un labo dédié.
Exactement. Et puis bon, ce qui m'a plu chez eux, c'est que le père produit la farine.
On peut les citer peut-être.
Ouais, bien sûr, c'est Émile et Jules, ces deux jeunes. Ils sont à Moisson et le père fabrique la farine. À son propre blé, les enfants font le pain avec et c'est vraiment ma recette. On met une huile d'olive que j'ai choisie pour faire notre pain. Voilà, on lustre notre pain à l'huile d'olive. C'est quelque chose. Enfin, l'huile d'olive, c'est notre sang, quoi.
Carrément. Et comme on le disait, la meilleure tartine du monde, hein, c'est du pain, de l'harissa et un petit peu d'huile d'olive. On écoute Mahmoud Msedi, prix de la meilleure baguette 2018, nous en parler, entre autres.
Mamoun Sedi, champion de la baguette tradition 2018.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous êtes d'origine tunisienne, parce qu'en fait, l'Harissa est la Tunisie aujourd'hui.
Tunisien de Sfax. Aujourd'hui, il y a un label Harissa, donc j'ai été invité. C'est un grand honneur.
Alors, l'Harissa et le pain, ça fait partie un peu de l'ADN tunisien. Est-ce qu'on peut imaginer se faire des tartines d'Harissa, par exemple?
Ah oui, 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 bien sûr. L'Harissa, c'est quelque chose qui est tout le temps présent sur la table, avec le pain, bien sûr. Et à tout moment, voilà, si on a un petit creux, on ne sait pas quoi manger, hop, une petite tartine d'Harissa, chez nous, c'est normal.
Voilà, il y a les fricassées tunisiennes aussi, les petits sandwichs de tous les jours, avec du bon pain et de la bonne Harissa.
C'est ça, l'Harissa, moi, quand je fais un sandwich, je mets de l'Harissa. C'est quelque chose, depuis tout petit, on a été habitué et que j'adore. Donc, c'est pour ça que je suis très fier d'être là.
C'est bien meilleur que la mayonnaise, non?
Plus piquant.
Alors, et vous, si on veut goûter votre pain à Paris, où est-ce qu'on peut aller?
Il faudra venir au 215 boulevard Raspail dans le 14e et au 171 rue de Tolbiac dans le 13e.
Alors, de retour dans Dessus de table avec Yoni Saada. Donc, on a entendu effectivement Mahmoud Msedi nous parler de l'importance du pain, effectivement, dans la cuisine tunisienne. Donc, votre pain est fait par des boulangers, mais selon votre recette à vous. Alors, le pain, il y en a un petit peu partout à la carte de votre restaurant. Oui. Bagnard, parce qu'effectivement, le pain Bagnard, moi, je continue à dire que vous faites des fricassés, hein, ça correspond plus.
On a fait un casseroute tunisien, parce que le casseroute turin, c'est le même principe que le pain Bagnard, sauf qu'il y a l'harissa, les pommes de terre, l'œuf coulant, mais à la base, il n'est pas baigné dans la vinaigrette à la tomate, mais j'ai voulu justement ramener ce savoir-faire niçois en Tunisie, de mêler notre pain dans cette eau de tomate légèrement aillée. Et puis j'ai choisi avec soin le thon aussi qu'on utilise. Enfin, toutes ces choses-là qui font que je pense qu'on fait un excellent sandwich.
D'accord. Alors vous êtes un fan de faits divers ou c'est par rapport au bagnard? parce que vos pains bagnard, ils s'appellent d'ailleurs, vous l'écrivez bien sur la carte, hein, un pan bagnard. C'est pas un pain bagnard, mais c'est un pan bagnard. Bagnard, c'est pour dire baigné parce qu'on l'a baigné dans la sauce habituellement.
C'était le sandwich du pauvre. Hein.
C'est ça, oui.
Donc en fait, on prenait le pain rassis, on le baignait dans le reste de l'huile d'olive et des vinaigrettes, de la tomate, tout ça, pour ramollir le pain. C'était le plat du pauvre, du pêcheur,
de l'ouvrier.
Ouais. Et de toutes les façons, les plus belles recettes viennent souvent de ces histoires-là, parce que on y met tellement de cœur que, avec un produit qui peut paraître pas noble, on a quelque chose d'extraordinaire.
Alors, je reviens à ma question, justement, parce que sinon les auditeurs vont pas comprendre.
Ah oui.
Pourquoi je vous demandais pourquoi vous étiez auditeur, amateur éventuellement de faits divers? C'est parce que vos pans bagnards s'appellent Jacques Mesrine, Lulule Bagnard, Al Capone et Riton les yeux bleus. Alors ça, moi, je le connais pas, mais ça fait très truand dans un film policier. Donc,
c'est un Tunisien, Riton les yeux bleus.
Ah, c'est vrai, il a existé vraiment.
Il existait vraiment, ouais, bien sûr.
D'accord,
exactement.
Alors moi, je le connaissais pas.
C'est un petit jeu de mots avec le restaurant qui s'appelle Bagnard, en fait, tout simplement parce que c'était l'ancienne serrure de Louis XVI, le premier restaurant qu'on a acheté, et que Louis XVI, le roi, donc allait en cachette comme un bagnard pour apprendre à forger des clés. Il était passionné de ça et en tant que roi, il n'avait pas le droit. Et donc après, on a fait que des petits jeux de mots avec des brigands. C'est histoire de rigoler un petit peu, ouais.
Bah, c'est sympa. Alors le Riton les yeux bleus, donc là on pourrait dire que c'est le
casserole tunisien.
C'est le plus proche de la fricassée qu'on peut manger à Belleville. Enfin, la fricassée, c'est un petit peu différent. Le pain est frit, je crois. Hein,
le fricassée, en fait, c'est un beignet qui est fourré de thon et de tomate et de citron au sel et de capre pour certains. Le casse-croûte tunisien, c'est le casse-croûte qui
ressemble plus au pain bagnard.
Qui ressemble beaucoup plus au pain bagnard. À la base, c'est pas le même pain. Mais là, je voulais vraiment le mettre un peu au carré, quoi. Et puis d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de recevoir le petit-fils du créateur du casse-croûte tunisien.
Ah.
Et qui m'a dit qu'il était très fier de pouvoir manger un aussi bon casse-croûte tunisien.
Bah oui, parce qu'on parlait de la qualité de votre sourcing. Alors, vous mettez pas n'importe quel produit dans votre pain, hein. Il y a la ventrèche de thon de chez Ortiz. Alors, Ortiz, conserverie pied noir, on va dire,
ouais.
Célèbre.
Ouais, vraiment. Ouais, exactement.
Hein, qui fait des bonnes sardines, des
produits de qualité exceptionnelle. Les olives aussi, on les a vraiment choisies. Elles viennent de Grèce. Elles ont une superbe amertume. Le citron Baldi, on le fait nous-mêmes. Parce que c'est un savoir-faire qu'on a dans la famille et que je voulais vraiment montrer à tous nos clients. Et puis ben on va choisir avec soin chacun des ingrédients, la tomate, le concombre, les oignons nouveaux qui sont taillés finement.
Les olives de Kalamata, c'est Juan Arbelaez qui vous y a forcé, non?
Non, pas du tout. Non, personne m'a forcé, mais je voulais vraiment prendre le meilleur de ce que j'ai goûté et l'assembler dans un sandwich. Et après, on a fait aussi une salade niçoise qui est élue meilleure de Paris depuis 3 ans.
D'accord.
Et on a fait sa petite cousine qui s'appelle la Gouletoise et qui est comme une salade niçoise, sauf qu'il y a un œuf coulant et il y a de l'harissa avec. Il y a des pommes de terre confites au gratin. Voilà quoi.
Alors moi qui suis un ayatollah de certaines appellations, donc je dirais niçoise revisitée, parce que dans la vraie niçoise, il n'y a que des aliments crus, hein, je
fait.
Le rappelle. Hein.
Alors certains mettent quand même les haricots verts comme nous, d'autres pas. Après, on est à Paris, donc il a fallu aussi mettre des choses. On n'a pas pu mettre le céleri ou le poivron cru parce que tout le monde ne l'aime pas malheureusement à Paris. Mais on a essayé d'être le plus fidèle à la recette de base.
Alors on parle des sandwichs hein, et des pains et des fricassés qui sont si emblématiques de la cuisine juive tunisienne. Mais vous avez en entrée aussi. Alors là, quand j'ai goûté ça chez vous, ça m'a fait tout de suite penser à votre copain Denis Mbrosi.
Oui.
Ce sont les artichauts à la juive, une recette du ghetto juif de Rome qui date du 13e ou 14e siècle.
Tout à fait. Tout
alors
à fait.
Où avez-vous pris la recette? Est-ce que vous l'avez un petit peu revisité?
Je l'ai complètement revisité. On travaille avec des artichauts poivrats, donc plus petits que ceux qu'on fait normalement à Rome. Et on a travaillé une petite vinaigrette, enfin même une petite vierge, c'est comme
c'est
ça qu'on appelle ça.
C'est presque un pesto, j'ai l'impression.
Un petit pesto détendu. Il y a de la grenade, il y a de l'olive dedans, il y a de l'oignon nouveau, il y a du citron au sel. Donc on a essayé vraiment de la mettre à notre sauce. Et c'était un petit clin d'œil justement aux Juifs d'Italie qui ont créé ce plat-là, qui était un plat du pauvre aussi.
Ah oui, complètement, ouais. Les artichauts, maintenant, ça coûte un peu cher, hélas. Mais...
Ah, ouais, les artichauts coûtent cher, alors qu'à la base, c'est vraiment un produit de pauvre. D'ailleurs, Coluche en faisait pas mal de blagues.
Absolument, ouais. On en a plus dans l'assiette après les avoir mangés qu'avant. Alors, sauf que dans l'artichaut à la juive, et à plus juste titre, la recette de Denis Mbrosi, parce que lui, il laisse évidemment toutes les pétales, hein, c'est que comme il est frit, on peut tout manger, y compris les parties dures qu'on jette d'habitude, parce que là, elles ressemblent à des chips.
Exactement.
Et c'est effectivement...
Et donc, le seul secret, c'est de faire deux bains d'huile différents, un à 140 degrés et un à 180 degrés.
Ouais.
Voilà, et à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui est bien cuit et qui est vraiment très croustillant. Et après, ben, je vous laisse à tous le plaisir de faire votre recette. C'est ça aussi, donner sa touche à une recette qu'on fait à la maison.
Les deux bains d'huile, c'est comme les pommes, c'est comme pour les pommes soufflées. Il faut que ça, c'est
exactement.
Pour se permettre à l'artichaut de s'ouvrir, hein, et de cuire à l'intérieur.
Et surtout, il va être cuit à l'intérieur, il va pas être cramé, mais il va être très croustillant et bien blond.
D'accord. Alors on est proche du terme de l'émission, Yoni. On parle de la cuisine juive d'Afrique du Nord. On fait pas de politique dans cette émission.
Ouais.
Vous n'en faites pas non plus, mais on constate quand même que il peut y avoir des inimitiés entre communautés en France et
malheureusement
des inimitiés interreligieuses. Alors qu'en Afrique du Nord, ça n'existe pas. Les communautés vivent très bien ensemble.
Ça n'existe pas. Alors ça existe un petit peu en France et c'est ce qu'on montre le plus. Malheureusement, maintenant, ma vision de la politique, c'est la table. Et
voilà, justement, c'était ma question. Est-ce que on peut dire que la gastronomie, c'est le lien et le ciment entre les communautés, au-delà des clivages religieux,
c'est
culturels?
C'est exactement ça. Et à l'époque de mes grands-parents, quand il manquait du sucre à droite ou à gauche ou du sel, et ben tout le monde s'en donnait. On se posait même pas la question d'où on venait ou quelle était la religion. Et je pense que la table, c'est ça. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que du plaisir et il n'y a que du vrai. Et restons tous ensemble dans le vrai, parce que c'est ce qui peut amener un bel avenir à nos enfants.
Eh bien écoutez, Yoni Saada, on arrive au terme de l'émission. Je trouve que ce sera un très joli mot de la fin.
Merci
d'avoir été avec
nous.
Accueilli. Et à la semaine prochaine.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.